podcast France Culture.
Ils l'ont vécu. 13 décembre 1981, la Pologne ne répond plus. Une série podcast de Dominique Prusak, réalisée par Laure-Hélène Planchet.
Mówi Radio Wolna Europa, głos wolnej Polski.
Premier épisode, un pays coupé du monde. Interactualité 13h, dimanche 13 décembre 1981.
Bonjour. État d'urgence, loi martiale, les syndicats interdits, les liaisons internationales coupées, des blindés en patrouille dans les rues de Varsovie et de Gdansk, le couvre-feu de 22h à 6h du matin, tous les dirigeants de solidarité arrêtés à l'exception de Lech Walesa, les événements en Pologne font naturellement l'essentiel de l'actualité.
Le 13 décembre 1981, le général Wojciech Jaruzelski instaure la loi martiale en Pologne. L'armée et la police contrôlent tout le territoire. Les frontières sont fermées. Le pays se retrouve totalement coupé du monde. Mais l'histoire de ce coup d'État commence 16 mois plus tôt, notamment par de sévères difficultés économiques. Septembre 1980, France Inter.
Dans un grand magasin d'État à Varsovie, Anthony, 65 ans, urbaniste.
Du jour au lendemain, on vient une fois, par exemple, dans un magasin où il y a le saucisson qui s'appelle Polska, et puis il change tout d'un coup, il disparaît, il revient dans quelques deux semaines sous un autre nom, et il coûte deux fois plus cher, quelquefois 50%, quelquefois 100%, et c'est très, très fréquent pour chaque produit. Si on augmentait officiellement de 3, de 5, de 10%, tout irait bien. Si on augmente officiellement du jour au lendemain de 120%, de 200%, et si on augmente aussi, pas officiellement, mais discrètement de 100%, non, alors là, ça vraiment, on ne sait plus déjà si la pension va suffire et comment est-ce qu'on arrangera pour vivre normalement, n'est-ce pas?
Elle s'appelle Elisa. Elle a 38 ans, mariée, un enfant.
Philippe Châtenay, Antenne 2.
Comme chaque jour, elle aussi doit affronter les difficultés de la vie quotidienne, se nourrir, se vêtir, faire vivre sa famille. Elle dit, par exemple, qu'elle ne peut jamais faire de menu à l'avance, car elle ne sait jamais ce qu'elle pourra trouver dans les magasins. Être consommatrice en Pologne, c'est être totalement à la merci du hasard. Ainsi, chaque fois qu'elle sort de chez elle, elle prend son cabas et de l'argent, car qui sait, elle pourrait trouver la cafetière qu'elle cherche depuis 2 ans, un arrivage de pâtisserie, une paire de chaussures. Elisa fait la plupart de ses courses dans ses halles, non loin de chez elle. Sur sa liste de choses à acheter, du pain, du lait, de la crème, des légumes, de la viande. À chaque fois, elle doit faire la queue comme des centaines d'autres gens qui se pressent dans ce marché, une queue qui peut durer des heures avant qu'elle n'apprenne que non, aujourd'hui, il n'y a pas de tel produit ou de tel autre. Ceci est la situation courante en Pologne, la situation normale. Justement, ce sont ces difficultés de la vie quotidienne qui sont à la naissance des grèves actuelles. Et si l'ensemble du peuple polonais n'a pas agi aussi ouvertement que les grévistes de Gdansk ou de Stettin, cela ne veut pas dire qu'ils acceptent docilement les pénuries et les queues.
Est-ce qu'ils savent que l'une des revendications des ouvriers de Gdansk, c'est justement d'améliorer la vie?
Non, non, on ne sait rien, on ne sait rien.
Est-ce qu'ils savent ce que demandent les ouvriers de Gdansk?
Non, on ne le sait pas, et puis comment on le saurait?
Et qu'est-ce qu'on pense de la situation actuelle? Est-ce qu'ils sont inquiets ou pas?
Et nous ne sommes pas tranquilles. Ça peut amener la guerre et la destruction.
Qu'est-ce qu'eux voudraient, par exemple? Est-ce qu'ils voudraient que le système marche mieux? Quelles sont leurs revendications à eux?
Ah, il faut que la vie soit meilleure. Il faut que la vie soit meilleure. Vous trouvez ça normal d'être là depuis 7 heures du matin pour un petit morceau de viande?
Antenne 2, documentaire Question de temps. 1er septembre 1980, Jan Serensky.
Quand j'achète la viande, je prends un livre, oui, et j'attends avec ce livre ou avec un journal, et on n'est jamais sûr si on recevra cette viande ou les autres articles de charcuterie. Et on bavarde, on échange les vues, très critiques, envers le gouvernement, parce que pour les gens, le manque de viande, c'est le gouvernement qui est responsable pour ça. Et le magasin, c'est aussi l'État. On achète seulement par personne 2 kilos par semaine. Nous dépensons seulement pour la viande et la charcuterie à peu près 2000 zlotys. Eh bien, le salaire moyen, c'est à peu près 5000. Eh bien, ça fait 40% d'un salaire par mois. Oui.
La raison de ces pénuries est double.
Philippe Châtenay.
D'abord, les résultats catastrophiques de l'agriculture polonaise ces dernières années. Les récoltes de 1980 s'annoncent mauvaises et beaucoup de Polonais se demandent ce qu'il y aura sur les marchés cet hiver. Et puis, la Pologne ne peut pas importer davantage. L'équipe dirigée par Édouard Guirec a fait le pari de l'industrialisation à toute vitesse et à tout prix. Pour acheter usines ou machines-outils à l'ouest, la Pologne a dû s'endetter à un degré colossal. Ses dettes, il faut les rembourser et en devises. Alors les dirigeants ont diminué autant qu'ils le pouvaient les importations de produits alimentaires ou de produits de consommation, en même temps qu'ils cherchaient à exporter à tout va. Cet été, des histoires, des rumeurs ont commencé à circuler. On dit que le blé polonais est exporté vers l'Union soviétique alors qu'on en manque ici. On parle de cheminots polonais qui ont bloqué un train chargé de viande qui partait vers l'Est parce que depuis des semaines, eux n'avaient plus de viande. Certes, ce sont des rumeurs, peut-être fausses, mais l'important, c'est que l'homme de la rue ici les croit et s'en indigne. Pour trouver de la viande, Elisa doit aller ailleurs, dans ce qui s'appelle un magasin commercial. Les queues sont tout aussi longues et épuisantes, mais ici au moins, on est sûr de pouvoir trouver les côtelettes ou le steak. Le problème, c'est que la viande ici coûte de 50 à 100% plus cher. Or justement, ce sont ces magasins commerciaux qui ont été le détonateur de la crise actuelle. Car le gouvernement a décidé le 1er juillet d'augmenter la part de viande vendue ici, entraînant nécessairement des pénuries encore plus grandes dans les marchés normaux. C'était aussi une façon déguisée d'appliquer des hausses de prix. En apprenant cela, les ouvriers polonais ont déclenché les premières grèves pour obtenir des hausses de salaire. Par la suite, le mouvement s'est durci et les grèves se sont politisées.
Je suppose que vous avez une voiture.
Oui, j'ai la toute petite Fiat.
Anthony, urbaniste.
Mais qui officiellement coûte 84 000 zlotys et pratiquement on ne peut pas la recevoir. Il faut avoir un bon pour le prix officiel. Pour obtenir le bon, il faut être membre de la partie et pas seulement, mais il faut avoir des connaissances encore. Mais on peut s'arranger autrement. Au marché noir, on l'achète en payant 180 000 zlotys.
Est-ce que l'on peut accélérer encore les choses en payant en devises étrangères ?
Oui, on peut. Il y a des gens formidablement riches de l'initiative privée qui ont ou bien des propriétés des fermes ou d'autres petites industries qui gagnent des centaines de mille zlotys. Et par exemple, pour acheter une voiture étrangère, une Mercedes ou une Honda, qui coûte 10 000 dollars, on faisait la queue pendant la nuit devant le magasin et en donnant encore des bakchiches aux vendeurs de 100 000 zlotys.
La classe dirigeante dans notre pays a tout sans aucun effort.
Agnieszka Grudzińska, 32 ans, documentaliste.
Par exemple, ils ont bien sûr toutes les facilités pour avoir la viande, la boutique spéciale avec la nourriture. Et bien sûr, le salaire nettement plus élevé que le nôtre. Les appartements sans aucune difficulté. Pratiquement, ils ont tout ce qu'ils veulent. Le fait que la femme d'un dirigeant trouve toujours le jambon et la viande dans son frigidaire, pour eux, c'est quelque chose de normal. Alors c'est pour ça peut-être qu'ils ne se rendent pas compte de la situation actuelle dans le pays. Même si on gagne assez bien, si on n'a pas de combines, si on ne connaît pas des gens, si on n'a pas de chance tout simplement, on fait la queue pour avoir la viande comme un ouvrier qui ne gagne pas beaucoup.
Antenne 2, documentaire Question de temps, 1er septembre 1980, Polonais dans la rue.
Je soutiens les ouvriers du chantier. Mais comprenez-moi, j'habite un F4 et on y vit à trois familles, c'est insupportable. Je ne gagne que de la petite monnaie. Et puis, on extrait 200 millions de tonnes de charbon par an. En 70, on en extrayait 70 millions, et tout le monde en avait. Alors pourquoi ma femme doit-elle faire la queue aujourd'hui? Je soutiens le gouvernement socialiste, mais on devrait avoir la liberté de parole et de religion. Vous savez, tout cela nous rend terriblement nerveux. On n'en peut plus. Nous nous battons pour l'augmentation des salaires, pour les retraites, pour la justice, pour les syndicats libres.
«
en Pologne, il arrive à un point que les ouvriers travaillent, ils ne trouvent pas à manger. Il y a une certaine minorité qui ont tout, parce qu'ils sont dans la partie. Les ouvriers, ils n'ont aucun droit à rien. Comprenez-vous ? Les gens, ils sont dans la misère. Et ça, c'est la faute du gouvernement.
Il y a des privilégiés au sein du parti. Et c'est là, c'est très voyant.
Anna, 21 ans. Étudiante.
À Varsovie, en ce moment, on voit des Porsche dans la rue, on voit les dernières voitures sorties à l'Occident. En même temps, il faut voir une autre chose. C'est que dans beaucoup de milieux, parmi les gens qui n'appartiennent pas au parti, il y a des gens très très riches. Parmi des paysans ouvriers, par exemple, qui travaillent au noir, en même temps, ils travaillent pour l'État, donc ça double le nombre d'heures. Ils ont tout ce qu'un Polonais riche peut vouloir, c'est-à-dire une voiture, une maison, un lave-vaisselle, etc. Et en même temps, donc, de l'autre côté, il y a des gens très très pauvres. J'ai rencontré des vieilles dames dans un bar qui avaient 2 zloty 40, enfin je ne sais pas, 50 centimes, juste compté pour leur repas du midi. C'était du riz avec du beurre et du sucre.
Moi, je dis ouvertement, je suis satisfait de ma vie du point de vue matériel.
Jan Sarensky.
Les problèmes intellectuels et les problèmes spirituels, c'est un autre problème, tout à fait autre. Je touche une bonne retraite. Ma femme est très satisfaite de son travail. Elle travaille dans une institution catholique, ce qui compte aussi. C'est très important puisque nous sommes catholiques. Le problème, c'est plutôt les conditions de la vie dans notre pays. Ce sera toujours un problème dans un pays où le parti qui gouverne est un parti athée, où la grande majorité de la population, ce sont les catholiques.
Les jeunes étudiants et les jeunes lycéens ont adopté le mode de vie tout à fait occidental, celui que l'on connaît en France.
Anna.
La jeunesse polonaise bouillonne comme chaque jeunesse. Elle a des idées et bien sûr, à un certain moment, en Pologne, plus vite qu'ailleurs, elle se rend compte qu'elle ne peut pas réaliser ses idéaux. En ce moment, il y a l'église qui accueille tous ces jeunes un peu en conflit et permet aux jeunes de s'exprimer tout en jouant de la guitare et en chantant de vivre un peu leur vie. Ma fille Julia commence ses cours à 11h30 et les termine à 3h de l'après-midi.
Christina Kaszpiak, mère de famille.
Quand elle finit ses cours, il y a d'autres enfants qui viennent pour seulement 3h et il y a d'autres enfants aussi qui viennent à 8h du matin et qui restent à l'école jusqu'à 11h30. Il y a un grand problème de place. L'école était construit il y a 15 ans, quelque chose comme ça, pour 800 écoliers. Mais maintenant, il y a 2000 écoliers. Alors l'école est très petite et on peut voir ça partout.
Anthony.
La Pologne, c'est une sorte de mater dolorosa. Elle est sombre et elle saigne. Et les Polonais, ils savent bien que dans chaque génération, cette lutte éternel comme oppresseur est une sorte d'héritage. Et nous croyons qu'un jour viendra cette liberté, ces libertés. Pour l'instant, c'est du pain, c'est le temps du travail, c'est la nourriture. Mais en même temps, c'est le premier pas vers la vraie liberté.
Le journal télévisé polonais dure une heure.
Anna.
Et on l'appelle, dans le langage parlé, une heure de bien-être. Vous ouvrez la télévision pour apprendre que tout va bien, c'est formidable, c'est extraordinaire, on construit le socialisme, etc., etc. Cette appellation, c'est vraiment une appellation populaire, mais c'est la montre, tout le rapport que les Polonais ont envers, par exemple, les informations télévisées.
Magazyn informacyjny z kraju i ze świata.
TF1, journal de 20h du 20 août 1980.
Partout sur le littoral de la Baltique, on s'installe dans la grève. Le principal bastion et le quartier général des grévistes polonais se trouvent toujours au chantier naval Lénine de Gdańsk. Mais le mouvement continue de s'étendre dans le pays. Ainsi, on signale de nouveaux débrayages aux forges de Nowa Huta et à Stettin. Partout aussi, des comités de grève se forment qui engagent des discussions avec les directions des entreprises et qui envoie des représentants au comité central de grève de la région de Gdańsk. Dans les meetings, les réactions spontanées des grévistes ne laissent place à aucun doute. La plupart des travailleurs polonais attachent une importance essentielle à leurs revendications politiques, en particulier à la possibilité de former des syndicats libres, ce que le gouvernement ne peut de son côté accepter, du moins ouvertement. Alors, pour l'instant, c'est l'impasse. Jusqu'ici, on s'est efforcé de part et d'autre d'éviter l'épreuve de force, mais depuis hier, des signes d'un certain durcissement officiel sont intervenus. À Dansk, la police, jusqu'ici très discrète, multiplie les contrôles et les vérifications d'identité.
Portrait de l'ère Wałęsa par Bernard Rapp pour le journal d'Antenne 2.
Tout commence ici. Les ouvriers des chantiers navals se mettent en grève pour cause de liberté. Tout un peuple les rejoint. Et le monde étonné découvre les visages qui symbolisent cette liberté. Parmi eux, celui d'une femme, Anna Valentinovic, mais surtout celui d'un homme, l'ère Wałęsa. Mais qui est donc ce type ? Redit Édouard Guirec, agacé par la personnalité de ce petit électricien qui parlait un peu trop. Ce type aurait pu lui répondre en chœur. Les ouvriers polonais, c'est nous, tant il est rare qu'un peuple en vint à s'identifier ainsi à son leader. L'ère Wałęsa est aujourd'hui un symbole, encore plus qu'un héros. On veut le voir, on veut parler avec lui. Ennemi de la corruption et de la bureaucratie, il a payé en son temps son engagement. Mais surtout, pour les ouvriers polonais, cet homme simple et authentique est l'un d'eux. L'ère Wałęsa va devenir le porte-parole des ouvriers polonais, leur recours ultime, comme ici.
Si c'est comme ça, lundi, je vais mettre tout le pays debout. Je vais lancer une grève, transmettez-le. J'en ai assez des plaisanteries et des manœuvres, sachez-le. Transmettez ça au gouvernement. Lundi, probablement, je donnerai l'ordre de grève générale.
À suivre, la liberté sur un fil.